Retrouvez la NEFA Charente pour son émission mensuelle sur RDC, la NEFA Charente, spécialiste de l'emploi et de la formation en agriculture.
Et oui, deuxième partie de notre émission Cap sur l'emploi, il est 11h09 sur RDC. Merci si vous nous rejoignez maintenant sur les ondes. Et puis ben, très sympa aux autres d'être restés bien sûr avec nous, d'autant plus que vous n'allez pas le regretter, parce que vous le savez, une fois par mois, donc mensuellement, on retrouve Sandrine Boineau qui est de l'ANEFA, l'Agence Nationale pour l'Emploi et la Formation dans l'Agriculture. Elle est en vacances, notre petite Sandrine, elle est de retour, et moi je suis bien contente de la retrouver parce qu'elle m'a manqué. Bonjour.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Alors la grande question, parce que nous on a le son et pas l'image, comment vas-tu? Tu es toute belle.
Oh, merci, t'es mignon. Ben, ça va très bien. La reprise s'est faite à la mi-août hein, déjà.
Ouais.
Effectivement, tu m'as manqué aussi.
Ah, c'est sympa ça. Alors, quelles sont les nouvelles? Je sais que tu n'es pas venue seule ce matin.
En effet, nous sommes accompagnés aujourd'hui de Ludovic Massacré, qui est céréalier à Gura. Bonjour Ludovic.
Oui, on l'accueille. Bonjour Ludo.
Bonjour Sandrine et Bruno.
Ça va bien?
Bah, très très bien.
Alors attends,
super accueil.
Il fait beau dehors. Est-ce que la route a été bonne pour venir jusqu'à nous?
Magnifique.
Ouais.
Traverser la campagne par ce temps magnifique, c'est splendide.
Vous avez trouvé du premier coup la radio?
Du premier coup.
Oh, écoute, premier coup. C'est un professionnel. Pas de problème. Alors si Ludo est là ce matin, c'est pour parler de quoi, ma petite Sandrine?
Eh bien de son métier, bien entendu, de l'évolution du métier de céréalier. Il va pouvoir nous communiquer justement toutes ces évolutions-là, aussi bien technologiques. Quelles sont les cultures que l'on pratique aussi sur son exploitation, et également d'une manifestation que l'on va faire ensemble avec Ludovic, Agri Demain, l'ANEFA et d'autres acteurs le 13 et 14 septembre sur le parking du supermarché à Villebois-Lavalette. Il nous en parlera plus en détail. Justement, Ludovic Massacré est là pour ça.
Tout à fait, bien sûr. Et toi, tu nous as amené aussi, je crois, quelques offres d'emploi dans l'agriculture.
C'est ça. On va bientôt démarrer la campagne de vendange, donc on est en recherche de tractoristes et de conducteurs de machines à vendanger, et notamment on recherche à Saint-Simeux un agent tractoriste en viticulture. La référence de l'offre, c'est OVI 120 490-16. C'est un contrat saisonnier à temps plein de 21 jours sur une exploitation viticole de 25 hectares. On recrute donc un agent tractoriste pour la période des vendanges. Il faut conduire le tracteur plus la benne, apporter son aide aux travaux des chais, surveiller le remplissage des pressoirs, surveiller le quai d'apport de la vendange, apporter à la préparation des levures et à l'ensemencement des cuves. Prise de poste entre le 20 et le 25 septembre pour une durée de 3 semaines. Vous travaillerez du lundi au samedi. S'il y a des heures supplémentaires, bien sûr, elles seront payées. Et le poste nécessite d'être ponctuel, respectueux des consignes et avoir l'esprit d'équipe. Expérience exigée en conduite de tracteur, hein, bien entendu. Il y a un local pour la prise des repas. Il n'y a pas de logement sur place. Et bien sûr, contactez l'ANEFA Charente au 05 45 61 90 37.
Elle connaît le numéro par cœur, sans regarder. C'est une professionnelle, je vous le dis, moi.
Françoise vous accueillera avec plaisir, hein, au téléphone.
Tu sais que pendant tes vacances, je n'ai pas arrêté de donner les annonces tous les mardis.
J'ai entendu.
Ah, en vacances, tu as pu entendre la radio?
Oui.
Ah, d'accord, très bien.
Et oui. Internet?
Ah, ben Internet, c'est vrai. Oui. Ou avons-nous la tête? Moi, j'y pense jamais, Internet.
Internet. Autre offre donc pour les vendanges à Asnières-sur-Nouère, agent tractoriste en viticulture, la référence OVI 121-402-16. On recherche un conducteur de machine à vendanger, Grégoire. Il faut être expérimenté sur la conduite de cet outil. C'est un CDD de 15 jours, CDD saisonnier de 15 jours, début de la mission aux alentours de fin septembre, début octobre. Les horaires sont de 8h midi, 14h, 18h du lundi au vendredi. Il faut aussi être un peu flexible, puisqu'en fonction des conditions météorologiques, on peut être amené à travailler soit plus tôt, soit plus tard. Bref, avoir de la flexibilité. Il y a une possibilité d'hébergement.
Ah, c'est bien, parce que c'est pas souvent
noter,
le cas.
Exactement, c'est assez rare, donc c'est à noter. C'est 12€ de l'heure. Le propriétaire, enfin l'employeur, vous paye le repas.
En plus.
Exactement. Et le logement également. Donc veuillez contacter à nouveau l'ANEFA Charente au 05 45 61 90 37. Françoise vous répondra. Et enfin, toujours pour les vendanges, agent tractoriste, la référence OVI 120-610-16 à Segonzac, c'est pour un mois. Alors là, c'est on recrute 15 conducteurs de machines à vendanger expérimentés pour l'ouest de la Charente et le sud Charente, pour au moins, il faut justifier au moins de 2 saisons de conduite sur une fonction similaire, de soit moissonneuse-batteuse, on peut passer aussi à la machine à vendanger. Heures supplémentaires payées, avoir donc une amplitude horaire importante, ça débuterait aux alentours de la mi-septembre pour 4 semaines. Coefficient 301, donc paiement 10,66 de l'heure, et contacter toujours l'ANEFA. Pas de repas sur place, pas de logement sur place.
Ben voilà, on va pleurer, c'est pas grave, tant pis. On peut rappeler aussi peut-être le mail de l'ANEFA.
Alors, anefa-charente@anefa.org. Le site www.anefa.org pour avoir les offres, www.l'agriculture-recrute.org.
Et pour venir vous voir, s'il y en a qui souhaitent avoir le contact physique.
Maison de l'agriculture, 53 impasse Louis Daguerre, 16 000, Angoulême.
Quelle belle voix, moi je m'en lasse pas, hein, Jean-Marc. Jean-Marc nous fait la technique ce matin, il faut le préciser. Peut-être qu'on va engager notre Sandrine pour faire quelques voix off comme ça. Là.
Avec
parce
plaisir.
Tu as vraiment une voix radiophonique. Hein. On te l'a déjà dit en plus.
Ah, oui, je confirme.
Tu le sais. Hein, c'est vrai, Ludo.
Ah oui,
hein.
Ah oui, oui.
Hein, pas mal. Hein. Alors justement, Ludo, on va en savoir un petit peu plus. Ludovic massacrait du côté de Villebois-Lavalette, céréalier. Alors pour ceux déjà qui ne savent pas forcément ce que c'est quoi cette profession ? Expliquez-nous un peu, en quelques mots.
C'est l'ambition, la volonté et puis la passion de travailler tous les jours avec la nature, avec un paysage différent chaque jour, des levées, des couchers de soleil et puis des climats différents à chaque saison. C'est une passion, c'est une passion.
Et vous y êtes arrivé comment alors dans cette profession ? C'est peut-être pas ça que vous avez fait toute votre vie, si ?
Si, enfin, si. J'ai tout simplement, je suis né dedans.
Ah, comme Obélix dans la marmite.
Exactement, je suis tombé dedans. Dès que je suis né, je suis tombé dedans. En fait, je suis fils d'agriculteur. Mes parents avaient chacun leur exploitation, l'un en Charente et l'autre en Dordogne.
D'accord.
Ils se sont rencontrés. Et puis depuis, bah, je suis peut-être la 5e ou la 6e génération
à
reprendre le flambeau. Et donc, je travaille agréablement et avec la passion de mon métier sur mon exploitation.
Alors, est-ce que c'est automatique, finalement, quand on a des parents agriculteurs, que finalement les enfants reprennent le flambeau de l'exploitation systématiquement ? C'est à chaque fois pareil ou pas ?
C'est peut-être pas pareil à chaque fois, parce que je pense que chaque parcours se respecte et chaque volonté de personne voulant faire un métier ou un autre est tout à fait respectable et louable. Après, je dirais que voilà, on est agriculteur, on est marin-pêcheur, c'est un métier de passion.
Oui, c'est un métier de passion. Alors depuis, qu'est-ce que tu as suivi comme étude en fait ?
Alors moi, je t'entendais parler, Sandrine, par rapport à toutes tes annonces viticoles.
Oui.
C'est la base de ma passion, puisque sur l'exploitation, j'avais une toute petite partie. Enfin, mon grand-père, mon père et mon arrière-grand-père avaient une toute petite partie viticole sur la commune de Gura. Et j'ai quitté très tôt le cursus scolaire général. J'ai fait une 4e, 3e technologique sur le lycée Félix Gaillard à Salle de Barbezieux. Et puis après, j'ai rebondi sur un BEPA viticulture œnologie, un bac pro viticulture œnologie, puis un BTS technico-commercial en boisson vin spiritueux du côté de l'Institut rural de Vers sur Libourne. Donc je n'ai pas forcément suivi une filière céréalière commune, parce qu'il y avait cette partie viticole qui était là. Et puis bon, je n'ai pas voulu suivre d'autres départements que le mien ou d'autres régions, donc je suis resté autour de la ferme et j'ai appris les céréales avec des formations grâce à mon technicien. Et puis maintenant, je suis 100% céréalier pour un choix économique.
D'accord. Alors, les formations, qu'est-ce que tu as appris durant ces formations, justement ?
Beaucoup d'expérience. À l'heure actuelle, c'est vrai que partir de son exploitation, on a tous tendance à avoir un modèle d'exploitation et on pense que le nôtre, c'est celui qu'on doit adapter à tous les systèmes. Mais en fait, grâce à mes études et puis le fait d'avoir quitté très tôt le milieu milieu familial et puis d'aller chercher entre guillemets de l'expérience, eh bien j'ai fait les vendanges en Alsace, où j'en garde un fabuleux souvenir de 3 semaines de vendanges, bien sûr en complicité avec mes camarades de classe, où on était répartis dans différents villages entre Rigvir, Mittelvir, enfin là je vous fais voyager, mais c'est des villages magnifiques à découvrir. Puis après des voyages scolaires sur les vignobles italiens, sur de la Belgique avec de la commercialisation des vins, et ce qui m'a poussé aussi à passer 3 mois sur les vignobles new-yorkais dans l'état de New York pour visiter, et puis entre guillemets aussi amener un petit peu la petite expérience française dans ces vignobles-là, où à chaque fois quand ils voyaient un petit Frenchie arriver, c'était « Ah, oh, ça serait bien que tu viennes travailler avec nous, on voudra avoir l'expérience française ». Et en contrepartie, eh bien, il y avait un échange un peu ludique entre deux parties qui venaient entre guillemets découvrir, parce que les Américains ne sont pas à la découverte du vignoble, ils nous ont bien aidé il y a quelques années de ça, mais c'était un échange très, très, très sympathique. Donc mes formations sont vraiment basées donc sur l'école, mais aussi sur les voyages et l'expérience que j'ai pu avoir sur d'autres pays.
Alors ça, c'est sur la partie viticole. Au niveau céréales, comment tu as été formé par rapport à toute la technicité que cela demande?
Alors, cette formation, je l'ai eue sur le terrain par mon père, qui m'a appris toute la partie technique, qui à l'époque était peut-être moins poussée que celle que nous avons maintenant. J'ai peut-être la chance d'avoir pu avoir cette formation entre guillemets sans prendre un cursus scolaire bien précis au niveau de l'agronomie, par le biais de mon père qui, par sa simple expérience, le recul sur le temps, le climat, l'environnement de l'exploitation, qui a pu me guider sur comment cultiver les céréales du début jusqu'à la fin, en prenant tout un tas de paramètres en cause et en question.
T'as combien d'hectares de terre ?
Alors la SAU est sur 250 hectares de terre, la moitié Charente, la moitié Dordogne, voilà, comme je te l'expliquais au début, avec différents types de terres, Sud-Charente et puis aussi Nord-Dordogne, et puis aussi une partie en Natura 2000 avec des contraintes environnementales que j'accepte tout à fait sur mon exploitation.
Alors qu'est-ce que c'est, tu peux expliquer?
Alors c'est des zones qui sont donc Natura 2000, qui sont bien délimitées sur une carte, et dans cette zone-là j'ai 18 hectares de fond, de zone humide, où on retrouve toute espèce végétale, animale qui viennent à se développer. C'était des zones qui étaient exploitées il y a quelques temps de ça pour faire décomposer la fibre du champ, parce qu'il y avait beaucoup de champs à cette époque-là, et on utilisait les fossés pour faire décomposer cette fibre-là pour pouvoir la travailler un peu plus tard. Et avec l'agriculture nouvelle, on a voulu réexploiter ces zones-là, mais qui sont trop humifères. Et avec les tendances actuelles, le but était plutôt plus de trouver des zones tampons. Donc Natura 2000 est arrivé. Le parc Périgord-Limousin a travaillé sur cette partie-là et a proposé des mesures agro-environnementales, ce qu'on appelle communément des MAE, dans notre jargon agricole. Ces mesures ont tout simplement offert aux exploitants des zones tampons entre l'exploitation et ces zones humides qui limitent l'impact des exploitations sur le milieu naturel qui entoure celle-ci.
D'accord. Quelles sont les cultures que l'on trouve chez toi ?
Alors essentiellement et traditionnellement, c'est un peu céréales, oléagineux, protéagineux. Donc, en quelque part, il n'y a pas vraiment une grande révolution au niveau des cultures, avec 2 systèmes d'irrigation qui me permettent d'assurer justement mes rendements et mes récoltes.
D'accord. Alors, avec 250 hectares, est-ce que tu emploies du personnel ?
Alors, je ne suis pas gourmand en personnel, puisque effectivement maintenant le céréal est une activité professionnelle qui est beaucoup plus mécanisée que n'est le viticole, mais j'ai un salarié à plein temps effectivement qui est en place sur l'exploitation depuis 1977. Petit rappel, je suis de 78, donc je fais toujours une pointe d'humour, il est arrivé avant moi sur l'exploitation et il va prendre sa retraite avec moi, donc il a traversé les générations entre mon grand-père, mon père et moi-même.
Mais c'est bien ça, c'est marrant d'ailleurs.
C'est drôle. Ça, c'est marrant, voilà. Et puis, à l'heure actuelle, voilà, c'est un carriériste, donc du coup, il a voulu rester jusqu'au bout avec moi.
Dans le contexte économique, financier ou même climatologique dans lequel se trouve l'agriculture française, laisse place à l'incertitude quant à la pérennité du système agricole actuel, ou même à plus court terme aux revenus de l'exploitation agricole. Devons-nous nous tourner vers de nouvelles pistes, choisir la productivité ou le productivisme? Est-ce nécessaire de chercher de nouvelles sources de revenus ou de diversifier nos cultures? Pour répondre à ces enjeux, c'est Ludovic Massacré, qui est situé aux alentours de Villebois-Lavalette, céréalier, qui répondra dans un instant sur RDC, parce que maintenant, mesdames, messieurs, c'est une petite pause musicale. Et si je vous dis par exemple Florent Pagny avec Savoir aimer, je sais que Sandrine, elle sait aimer. Donc tout va bien, n'empêche. C'est son choix.
Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Apprendre à rêver.
Florent Pagny avec Savoir aimer sur RDC. Tout à l'heure, notre prochaine pause musicale sera en anglais, puisqu'on aura l'occasion d'écouter les Beatles grâce à Sandrine. Alors, on est toujours avec Ludovic, bien sûr, Ludovic Massacré, qui est, je vous le rappelle, céréalier aux alentours de Villebois-Lavalette. C'est où d'ailleurs Villebois-Lavalette ?
Alors, dans le canton de Tudé-Lavalette, le nouveau canton...
C'est ce qu'on appelle Tudé-Drône, non ?
Oui, oui, voilà, c'est ça, voilà, voilà. D'accord. On est dans ce secteur-là, une magnifique, magnifique région, magnifique canton. Je vous invite à venir le découvrir.
Moi, je ne connais pas. Tu connais Sandrine ?
Oui, c'est très beau.
Oui.
Ah ouais, j'aime beaucoup.
Merci.
Ah ben, on s'approche de la Dordogne, je suis une amoureuse de la Dordogne.
Périgord vert, Périgord noir.
Noir, surtout.
Ça sent le canard.
Jean-Marc est content, il lève le poing quand on a dit Périgord noir, l'attention. Alors, pour répondre aux enjeux, parce que juste avant la pause musicale, je vous parlais des nouvelles pistes éventuellement qu'il fallait trouver pour se tourner vers l'avenir. Plutôt choisir la productivité, le productivisme. Ludo, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour des nouvelles sources de recherche, de revenus ou diversifier les cultures dans les années à venir ?
Alors, ça c'est un grand débat.
Ah ben, on est là débat. Pour toute la journée d'ailleurs. Ah,
ouais, alors donc je vais faire thèse, synthèse, antithèse. Et ça tombe bien, les écoles ont commencé, donc on est dans l'air du temps. Et c'est la rentrée. Non, je crois que pour revenir un peu plus sérieux sur le sujet, qui est vraiment un sujet très sérieux, effectivement, il y a différents défis. Anticiper le changement climatique, s'armer contre la mondialisation, renouer un dialogue avec la société française, c'est un enjeu de taille puisque l'accroissement de la population mondiale ne fait que de s'accroître. Nous allons passer d'ici 2050 à plus de 50% de la population mondiale, donc il va falloir nourrir toutes ces petites bouches. Donc c'est notre métier, nous sommes là pour nourrir les gens. Avec la mondialisation, il faut aussi que nous ayons une ambition commune pour améliorer notre compétitivité. La baisse des coûts peut passer par la génétique, des intrants plus efficients, des outils à la décision un peu plus précis, l'innovation, une baisse des charges. Et puis, bien sûr, hein, tout le monde sait, on travaille, nous avons la politique agricole commune, hein, communément appelée la PAC, qui doit aussi également évoluer, à mon sens, hein, car elle est essentielle dans la structuration de notre chiffre d'affaires. Sa répartition en Europe crée d'importantes distorsions et la concurrence au sein de l'Union. Entre autres, ces défis, il faut s'armer sur tous ces points-là. Peut-être un point essentiel qui est surtout le climat, où à l'heure actuelle, on a cette problématique, on est tous conscients que le réchauffement climatique est bien là. Donc, une des solutions entre les autres, ça serait peut-être l'accessibilité aux assurances. Au dernier recensement, au niveau des pourcentages des exploitations, il n'y aurait que 30% des exploitations assurées au niveau de la sécheresse sur les blés. Et puis, peut-être l'autre point beaucoup plus près de nous et qui est aussi un débat et un enjeu, qui est l'accès ou le développement des réserves de substitution, qui est un point...
Qu'est-ce que c'est les réserves de substitution ?
C'est de pouvoir capter l'eau d'hiver, la stocker pour s'en servir l'été, tout simplement, et en proportion par rapport aux cultures qui en ont besoin. Ni plus ni moins. On a besoin tout simplement d'anticiper ce réchauffement. Quelques sociétés, quelques analystes ont prédit d'ici quelques années que dans notre région, nous n'allons pas avoir de changement climatique majeur, c'est-à-dire que nous allons avoir les mêmes précipitations pendant 10, 20, 30 ans. Par contre, les étés seront plus longs. Nous allons passer d'un été de 3 mois à 6 mois. Et donc, forcément, des besoins d'eau seront bien là. Il faut anticiper ces besoins, il faut gérer cette eau, il faut stocker cette eau et éviter que l'hiver, on la voit passer devant chez nous et puis qu'elle parte directement à l'océan. L'océan en a besoin, hein. Je pense aussi à nos ostréiculteurs qui ont besoin de cette eau douce, mais voilà, les quantités qui sont captées, qui sont stockées, ne sont pas forcément des quantités qui mettront en péril les essaims de moules, de bouchots, entre autres.
Donc comment seront créées ces réserves ?
Ces réserves seront créées sur des zones bien déterminées avec des études de milieu qui sont à l'heure actuelle très très longues, malheureusement, parce qu'on voudrait que nos projets avancent un peu plus vite. Ces réserves, par une décision commune, hein, puisque autour de la table, nous avons différents acteurs de la région, de l'environnement, que ce soit les fédérations de pêche, mais aussi les DDT ou
Les DDT ?
Les directions départementales du territoire.
D'accord.
Du territoire.
D'accord.
Voilà, qui auront bien sûr leur mot à dire, et puis l'impact de cette réserve sur l'environnement. Donc toutes ces études-là prennent du temps, et on a besoin effectivement d'avoir l'accord et l'aval de tout le monde pour pouvoir constituer ces réserves-là.
Et avec ce changement climatique, est-ce qu'il n'y aurait pas matière à réflexion aussi à diversifier des cultures qui se font peut-être au niveau de l'Afrique et que l'on pourrait retrouver chez nous, qui sont peu pompeuses en eau? Je pense au sorgho, par exemple.
Alors, Sandrine, tu es tout à fait dans l'air du temps. On a déjà commencé. Sur mon exploitation, j'ai décrit que je faisais donc des céréales. Alors, c'est vrai que c'est compté comme des céréales. Je fais du millet blanc. Donc, le millet, c'est une céréale d'origine asiatique qui sert essentiellement à l'alimentation animale, donc indirectement à l'homme. Mais après, on peut retrouver du teff, qui est une culture, une céréale qui vient d'Éthiopie, très nutritive et riche en calcium, fer et protéines. Le fonio, la plus ancienne céréale d'Afrique, riche en magnésie, zinc, calcium, protéines. Enfin, voilà.
Et qu'on peut consommer directement.
Et qu'on consomme directement, tout à fait. Donc, en fait, nous avons commencé à nous adapter par rapport à ce changement climatique avec des nouvelles cultures. Alors, c'est vrai qu'on y va toujours à tâtons, parce qu'il faut rappeler qu'une exploitation, il y a une économie, il y a un chiffre d'affaires, et on ne peut pas...
Et un salaire à sortir quand on peut.
Exactement. Donc, il faut vivre sur notre production, et à côté de ça, nous mettons en place des essais, et petit à petit,
oui,
le marché s'ouvre.
Oui, il y a expérimental.
Tout à fait.
De toute façon, pour justement pallier ces problèmes économiques, il va falloir réfléchir à des nouvelles cultures, parce que celles que nous connaissons sont trop riches en consommation d'eau. Donc à un moment donné, on va se trouver face à une situation inéluctable. Donc il va falloir trouver des céréales qui sont un peu moins gourmandes en eau.
C'est l'enjeu. C'est l'enjeu actuel, effectivement. Et bon, on ne pourra pas laisser les autres céréales de côté puisqu'on en a besoin.
Non, c'est pas ça.
Mais
voilà, diversifier.
Tout à fait. Il faut avoir une panelle de céréales qui, bien sûr, correspond aussi à un marché. C'est vraiment l'enjeu. Il faut que la partie environnementale se calque sur l'économie d'une exploitation et donc forcément sur la rentabilité de la productivité de cette
céréale. Alors, tout à l'heure, tu parlais des enjeux justement de la mondialisation. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un marché à prendre au niveau du local ?
Alors, au niveau céréales, nous pouvons avoir des marchés à niche en transformation directe avec des variétés, de céréales bien précises pour la vendre à un meunier. Il faut savoir que nous ne pouvons pas vendre, nous, en tant que céréaliers, nos propres céréales.
Ah, ça, je ne savais pas.
Non, nous ne pouvons pas les vendre
Comment
directement. Nous sommes obligés de passer par un organisme stockeur, soit négociant, soit coopérative, qui certifie la qualité, puisque, avec les enjeux, environnementaux que nous sommes en train d'avoir en ce moment, avec peut-être des idées aussi reçues au niveau de la population, il faut qu'on ait une surveillance sanitaire des céréales qui rentrent dans nos organismes stockeurs. Il faut faire très attention aux contaminants naturels, type ergot du blé, ergot du seigle, qui peuvent avoir des conséquences dramatiques.
Qui est une époque saturée,
Qui est une époque saturée et qui peut-être à nouveau tuer. Malheureusement, je lisais pas plus tard qu'hier, alors pas sur l'ergot, mais sur le datura, que des lots de farine de blé noir avaient été retirés du marché par une concentration trop importante de datura dans ces lots-là. Donc, et puis nous le voyons, nous, au travers de nos recherches. Très régulièrement, une fois par an, je fais un petit stage d'une journée chez Arvalis, qui est notre institut de recherche dans toute la France, hein, et qui nous avait un petit peu plus sensibilisés sur ces maladies-là qui risqueraient de réapparaître. puisque on est sous des modes de protection beaucoup moins importantes que l'on a eu il y a quelques années de ça, et voilà, le risque il est là. Donc le marché court, pour reprendre ta question, effectivement il existe, effectivement il est accessible, mais on est encore sur de la niche. Nous sommes nous avons la chance d'avoir une agriculture fluviale, c'est-à-dire qu'on a les ports qui sont pas très très loin, on a de l'exportation qui se fait avec les pays subsahariens, et ces pays-là sont très demandeurs de notre agriculture parce qu'elle est de qualité, parce que nos infrastructures répondent essentiellement à leurs besoins, et puis on a aussi une régularité de production qui tourne à peu ou près 10% par an au niveau des volumes. Pour te faire un exemple, en mer du Nord, les pays de la mer du Nord, eh bien, nous avons des céréaliers qui peuvent produire 115 millions de tonnes une année, et le lendemain, enfin, l'année qui suit, retomber à 50 millions de tonnes. Donc, notre pays, c'est la chance aussi de la filière, c'est d'avoir une structure vraiment linéaire.
Oui, c'est intéressant tout ça. Bruno, on fait une petite pause.
Allez, comme
et
promis.
Après, on pourra parler d'Agri demain.
Ah,
hein, bien sûr, bien sûr. Vous écoutez RDC, il est midi moins 20 déjà, le temps passe. Notre Jean-Marc va nous mettre les Beatles, comme promis, comme juré. Come Together, ça s'appelle. Le choix encore de Sandrine. Come Together, les Beatles, c'est ce qu'on disait avec Sandrine, on se croirait à Woodstock en fin de compte. C'est vrai.
Presque, presque.
69,
il manque Jimi Hendrix.
C'est ça. Ben, on l'a à côté de nous, le Jimi Hendrix. Ah non, c'est Ludo, pardon. C'est Ludo. Alors, on parlait de l'exploitation, mon cher Ludo. Moi, je ne m'entends pas tellement. J'ai l'impression que le micro n'est pas monté. Si, il est monté. C'est très bien. Merci, Jean-Marc. L'exploitation, 25 hectares, c'est ça?
250 hectares.
Et je crois savoir que de temps en temps, il y a des scolaires qui viennent visiter un petit peu les lieux.
Alors, scolaires, oui, effectivement. C'est-à-dire que j'aime bien communiquer. Bon, la preuve, je suis avec vous ce matin. j'aime bien communiquer et puis j'aime bien tout simplement, effectivement, montrer ce que je fais. Donc, ça commence par les nouvelles générations, ça commence par les écoles, parce qu'on peut tout entendre. Et puis, moi, j'aime bien montrer du concret.
Oui.
Et il y a quelques années de ça, on a une petite bannière qui est arrivée dans le milieu professionnel qui s'appelle Agri Demain. Et Agri Demain, c'est bien l'organisme qui nous permet de communiquer simplement de notre métier à toute personne en venant découvrir ce qu'est du céréal, ce qu'est une vache, ce qu'est une chèvre, un mouton, avec des objets pour vivre, entre guillemets, sans y être, mais des moissons en 3D, avec des lunettes 3D, une presse à huile, une tireuse à lait, un bar à lait pour les enfants, et un parcours de graines pour découvrir toutes les graines qui peuvent se produire dans tout le département.
D'accord, mais non, c'est bien.
C'est très très bien.
C'est vivant.
C'est vivant. Et cette manifestation donc d'Agri Demain, ça aura lieu quand?
Alors, ça aura lieu le 13 et le 14 septembre en après-midi.
Dans l'après-midi, de quelle heure à quelle heure?
Alors, de 14h à 19h.
De 14h à 19h, et où?
Alors, sur le parking d'une grande surface de Villebois-Lavalette.
D'accord, et alors qu'est-ce qu'il y aura sur ce parking?
Donc, déjà, des agriculteurs.
Ah, c'est bien. Et puis aussi la NEFA.
Je parie qu'il y aura Ludo.
Oui.
Et il y aura aussi la NEFA.
Il y aura la NEFA.
Ah, vous aurez un stand.
Bien sûr.
Exactement.
Bien sûr. Essentiel à notre agriculture. On a besoin de main-d'œuvre. C'est essentiel.
Exactement.
Et c'est sûr que. Voilà. Donc la NEFA sera bien présente, mais aussi d'autres partenaires, donc comme le Crédit Agricole, qui fait partie du conseil d'administration d'Agri Demain. Puis des partenaires coopérateurs. Donc moi, sur le secteur de Villebois, c'est Océalia qui sera présent avec moi pour communiquer, toujours pareil, hein, dans le même sens de communiquer. J'ai parlé du Crédit Agricole. J'aurai aussi le président de la caisse locale, M. Yannick Blanchetasse, qui est un des derniers feuillardiers de notre région. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le métier.
Oui,
du
il est déjà passé aussi par la NEFA pour recruter justement un salarié. C'est le dernier feuillardier que l'on peut trouver dans le département, et c'est vraiment des valeurs ancestrales. Donc, c'est. Ah oui, ça va être une superbe rencontre, ça.
Voilà, tout à fait.
Bonjour Yannick, s'il nous écoute.
Et je ne doute pas. Parce que bien sûr, je vais passer le message. Hein. Ce matin, j'étais sur RDC.
Ah ouais, ouais.
Voilà.
Et pour les curieux, ils peuvent trouver justement un reportage qui a eu lieu sur lui. Je pense que c'était sur un JT de TF1 ou France 2, je ne sais plus lequel. Mais bon, ils font la recherche justement sur Internet. Ils vont voir justement sa façon de faire, qu'il a appris de son grand-père, son père, etc. Donc c'était vraiment des valeurs ancestrales. Très belle rencontre, j'ai hâte.
Et voilà, mais ça va être le fil rouge.
Alors vous parliez de main-d'œuvre, Ludo, il y a quelques instants, quand on avait besoin de main-d'œuvre. S'il y a des jeunes actuellement qui nous écoutent, ce que j'espère d'ailleurs, c'est pas forcément la majorité de nos auditeurs, nous c'est plutôt des personnes plus âgées, mais s'il y a des jeunes ou des gens qui sont intéressés à rentrer dans cette filière, quels seraient vos conseils pour eux?
Je pense qu'il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter d'entrer dans la filière pour venir déjà aider à découvrir si c'est sa voie. Parce que j'ai une petite devise, moi. Je me dis qu'il vaut mieux être optimiste et se tromper plutôt que d'être pessimiste et avoir raison. J'ai un petit peu le...
Belle devise.
Donc, moi, partant de là, il faut que ces jeunes viennent découvrir notre métier. Parce que, oui, certes, il y a du matériel, c'est intéressant, il y a de la technologie. Mais à côté de ça, on crée de la vie. On crée de la vie parce qu'on produit. Et ça, c'est magique. Parce que ce qu'on a derrière nous, quand on moissonne, ce qui s'appelle une trémie, on a du grain. Et quand on regarde ce grain, on se dit, là, on va nourrir du monde. Et il y a... Mais on est acteur et on n'est pas sage-femme, hein. Mais c'est nos petits bébés qui sont derrière. Et puis on se dit, bah, grâce à ça, du monde va pouvoir profiter du pain, du pain, des pâtes, du blé. Peut-être indirectement, ben on va pouvoir faire de la cosmétique, on va pouvoir faire autre chose, de la papeterie, on va... Enfin, voilà.
C'est vaste.
C'est très, très vaste. C'est très, très vaste. Et tout ça, c'est une vie. Donc, voilà, il faut que ces jeunes se passionnent de notre métier, s'imprègnent. Il n'y a que des bonnes idées. Il n'y a pas de fausses idées.
Alors, jeunes, moins jeunes aussi, parce qu'il peut y avoir aussi des parcours de reconversion. Et je pense que ce week-end du 13 et du 14 à Villebois, le parking d'un supermarché à Villebois, c'est l'occasion de venir rencontrer en direct les agriculteurs et de découvrir à travers cette rencontre le métier. Parce que là, il n'y a pas d'intermédiaire qui se crée et on peut échanger sur des questions, sur différentes, même les pesticides. Au moins, on peut balayer les idées reçues par rapport à ça. Mmh. Donc, il y a du matériel aussi, le 13 et le 14 ?
Oui, voilà, on va amener quelques petits matériels, notamment une moissonneuse batteuse, où les gens auront l'occasion de monter dedans.
Ah, génial,
quand même. Ah,
oui, tout à fait, ouais. Vous allez pouvoir monter dedans, profiter de cet espace, et puis même de toucher au bouton, c'est pareil. On vous, y aura... Bon, le moteur ne sera pas en route, hein, mais sinon, vous pouvez, voilà, vous allez avoir l'accès à cette machine-là. Petite parenthèse, je suis très geeker, j'en connais qui sont plus que moi, mais je me suis inscrit sur mamoissonneuse.fr. C'est un site où, en fait, on se localise et des personnes qui sont passionnées par les moissons vous contactent et puis nous disent tiens, j'aimerais bien faire un plateau de batteuse, est-ce que vous êtes ouverte, est-ce que vous acceptez ma venue, et puis alors là, la rencontre se fait
et voilà.
Et dernièrement, cet été, j'ai une personne qui m'a dit, écoutez, je viens de Saint-Thierry-la-Perche, je fais 3 tours avec vous, je m'en vais. J'ai écouté, monsieur, Saint-Thierry-la-Perche, 3 tours, ça fait cher du kilomètre quand même. J'ai resté l'après-midi avec moi, ça ne me dérange pas. Et là, on est parti dans une discussion. On était en train de récolter du colza. L'après-midi est passé, on n'a pas vu le temps passer. Enfin, je ne suis pas trop bavard, vous avez remarqué.
Non, non, non.
Et donc, du coup, on a eu une rencontre fabuleuse et magnifique.
Et tu dis le site, c'est ?
Alors, moissonneuse.fr.
Moissonneuse.fr. Donc là, on va sur ce site, on voit justement des points, il y a une petite carte, c'est ça ?
Tout à fait, c'est interactif.
Donc on voit des points, donc là on sait que c'est Ludovic Massacré, c'est interactif, on clique sur ce point, et puis à ce moment-là, il y a tes coordonnées, comment ça se passe ?
Tout à fait, mes coordonnées téléphoniques sont dessus, et les gens m'appellent, et puis... Alors, c'est faisable ou pas, hein, après, en fonction, puisque j'ai aussi... Enfin, mon entreprise, je fais monter les gens quand je suis chez moi, j'évite, je fais de la clientèle, je fais de l'entreprise de travaux agricoles, enfin, essentiellement battage, moissonneuse-batteuse. Et bon, forcément, je ne suis pas chez moi, donc, mais quand je suis chez moi.
En fonction de la disponibilité, bien entendu.
En fonction de la disponibilité,
oui, voilà,
il n'y a aucun souci.
Oui, oui, donc il faut contacter l'agriculteur, voilà. En fonction de sa disponibilité, on peut faire les moissons avec
voilà,
lui.
Voilà, tout
d'accord.
À fait.
D'accord. Sur une matinée, sur une après-midi.
Voilà.
Ok.
Voilà.
Ah ben c'est intéressant, moi je connaissais pas, je vais prendre note, je vais peut-être faire les moissons l'année prochaine.
Formidable. Voilà, c'est ça.
Ah ben d'accord,
voilà.
Quand tu veux.
Même Bruno, hein, pareil.
Oui, mais tu sais, moi je suis très occupé. Hein, moi. À droite, à gauche, la radio nous prend beaucoup de temps hein, quand même. Est-ce que vous voulez une petite musique avant qu'on se quitte ou pas, mes amis ?
Est-ce que tu as autre chose à ajouter, Ludovic ?
Bah, j'ai passé une fabuleuse matinée et je trouve que... Ben voilà, j'ai fait une rencontre d'agréables personnes et je crois qu'effectivement on va y prendre goût hein, si on continue à communiquer comme ça. Non, je n'ai rien d'autre à ajouter, merci beaucoup à vous, c'est une expérience qui est très sincère et qui m'a vraiment plu.
Bon. Est-ce que toi, ma petite Sandrine, tu as une prochaine date pour le mois d'octobre ou c'est encore un peu trop tôt ?
C'est un petit peu trop tôt, j'ai pas réfléchi à la question, je t'en ferai part.
Ouais, on dira à nos amis, t'inquiète pas.
Oui.
Il n'y a pas de problème. Oui, oui. Troisième choix de notre petite Sandrine de ce matin, c'est Billie Eilish qui interprète Bad Guy. Nous, on n'est pas des mauvais garçons en tous les cas. Hein. Restez avec nous puisqu'on va vous dire au revoir après.
So you're a tough guy, like you're really rough guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
Et oui, vous avez pu entendre Billie Eilish dans Bad Guy. Et puis alors justement, Sandrine, on parlait comme ça hors antenne, elle me disait qu'elle avait 16 ans cette petite.
16 ans.
Et que tu as entendu ça sur Radio Confrère, France Inter.
France Inter, oui, c'est ça, j'écoutais une émission et puis donc ils ont fait une pause musicale comme on fait lors de nos émissions et ça m'a beaucoup plu.
Ouais, mais
et
c'est
quand j'ai appris le l'âge de l'artiste, je me suis dit, c'est prometteur.
Et ben voilà, comme quoi tu vois, on chante de plus en plus jeune maintenant.
Absolument.
Hein. Un qui ne chante pas, mais qui parle pas mal et on est content, c'est Ludovic. Ludovic qui était notre invité de ce matin, on va être obligé bientôt de se quitter parce que on approche de midi, n'est-ce pas? Les estomacs commencent à crier famine. Et avant, j'aimerais, pour terminer en fait, puisque c'est votre première radio, mon cher Ludo, que vous nous disiez un petit peu votre ressenti, comment vous avez trouvé cette petite matinée. Bon, une petite heure, hein, c'était un peu court, hein, évidemment. Mais voilà, cette expérience radiophonique par rapport à votre boulot. Et vous savez que vous pouvez revenir quand vous voulez, hein.
Bah écoutez, c'est très gentil, la prochaine fois je viendrai, mais je chanterai la prochaine fois. Hein.
Ah ouais. Ah ouais, puis alors, avec le CD sous la main, comme ça on pourra le mettre régulièrement.
Eh bah écoutez, moi c'est une expérience magnifique, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, une belle rencontre, et puis de pouvoir parler de nos métiers, je dis bien de nos métiers, parce que ce soit la radio, mais que ce soit aussi l'offre d'emploi ou agriculteur, on est tous complémentaires dans la vie, on a besoin de se parler les uns des autres pour évoluer, donc c'est, voilà, j'ai passé un très très bon moment avec vous, pourquoi pas le reconduire une autre fois, je m'invite presque. Hein.
Non mais au contraire, c'est très bien. Moi j'aime bien recevoir les gens, hein. Donc il n'y a pas de souci.
Et alors moi j'invite aussi les gens à venir nous rencontrer en direct, donc le 13 après-midi,
voilà,
et le 14 après-midi sur le supermarché, un parking du supermarché à Vibois-la-Valette, où il y aura donc des machines agricoles, des agriculteurs, différents partenaires comme Océalia, la NEFA. Voilà, venez nous rencontrer en direct pour qu'on puisse discuter ensemble, faire connaissance,
voilà,
et passer un bon moment ensemble.
Pour
aussi
vous donner un ordre d'idée, de toute manière, si vous ne trouvez pas le magasin, c'est un super magasin, voilà, tout simplement.
Super magasin, super,
super
parking,
magasin,
à Vibois-la-Valette.
Qui se trouve Vibois. Voilà, tout simplement. 11h59. Merci Jean-Marc d'avoir fait la technique ce matin. On te
Merci.
Retrouve demain dans tes émissions. Moi, je vous redonne rendez-vous maintenant, vendredi matin, en ce qui me concerne. Alors, vous avez entendu entendu, hein, si vous n'étiez pas à l'écoute à 9h15, je ne serais pas avec vous pour vos dédicaces, parce que pour tout vous dire, j'ai rendez-vous à la visite médicale du travail vendredi matin. Donc je reviendrai uniquement pour l'émission des rencontres, une émission qui est très attendue par nos auditeurs. Et oui, c'est les rencontres, mon cher Ludo, pour faire des couples, amour ou amitié.
Ah.
Allez, il est presque midi, bon appétit à vous tous, on vous aime. Et merci d'avoir choisi RDC pour passer la journée avec vous. Au revoir Ludo.
Au revoir.
Au revoir ma Sandrine.
Au revoir,
à très bientôt. Et je vous laisse tantôt avec Yann dès 14h.
Retrouvez l'ANEFA Charente pour son émission mensuelle sur RDC, l'ANEFA Charente, spécialiste de l'emploi et de la formation en agriculture.